16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter, en compagnie d'un garçon qui ne se la raconte jamais, ou presque. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane, bonjour chers auditeurs. Vous entendez cette excitation qui émane de la voix de Stéphane aujourd'hui? Est-ce le fait de me retrouver? Non, il me retrouve tous les jours, il s'en fout, il ne me regarde même plus. Non, c'est autre chose, c'est qu'il sait que c'est un jour très particulier pour lui, un peu son cadeau de Noël avant l'heure. Car si Stéphane adore parler des duchesses, il y a une chose qu'il préfère encore, c'est recevoir une duchesse. Stéphane, I give you Sarah Ferguson, la duchesse d'York. Alors qu'on évoque aujourd'hui trois femmes qui ont su briser leur carcan, notre invité spécial publie À la conquête de sa liberté, un roman qui mêle histoire avec un grand H et histoire d'amour avec un grand A. Tout ce qu'on aime, Stéphane.
Oui, bonjour Sarah Ferguson, merci duchesse d'York. Vous nous faites l'honneur d'être avec nous cet après-midi, ce qui sera pour votre seule et unique interview à la radio en France. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue, j'en parle.
La bienvenue. Vous hésitez entre les deux langues. Oui. Hein. Donc là, on reste en français.
Comment allez-vous?
Bonjour Stéphane, Anne-Mathieu, bonjour. Bonjour. Je suis très bien, merci.
Vous aimez être en France?
Oui, j'apprends à l'école. Et j'aime beaucoup. Ok, yesterday I got out of the train.
Hier, je suis sortie du train à la Gare du Nord.
And immediately I felt happy.
Et tout de suite, je me suis sentie heureuse.
C'est là,
c'est là que j'étais. Est-ce que vous m'avez vu à la Gare du Nord?
Oui, je vous ai vu, j'habite tout près. La dernière fois que vous avez croisé Stéphane, je crois que c'était à Megève avec Nadine de Rothschild. C'est un petit off que je vous livre comme ça hors antenne. Qu'est-ce que vous faisiez avec Nadine de Rothschild à Megève? Du ski?
La duchesse de York défendait.
Non, Mathieu, we were working.
Mathieu.
Please, I remember it very well.
Je me souviens très bien de ce moment. Nous n'avons pas changé, nous sommes toujours aussi beaux d'ailleurs.
Especially Stéphane. On vous retrouve dans quelques minutes et comme...
You haven't changed. Vous n'avez pas changé du tout.
It was ironic for Stéphane. On vous retrouve dans quelques minutes, ma chère Sarah Ferguson, et comme l'héroïne de votre roman, et peut-être vous-même aussi, on réunit aujourd'hui dans cette émission, trois dames qui ont brisé leur carcan, Stéphane.
Oui, à commencer par celle qu'il a brisée au sens propre. Un carcan métallique qu'elle portait enfant, atteinte de la polio. Puis un autre aussi qu'elle a fait sauter sa combinaison de bain pour la remplacer par un maillot. Oui, le tout premier maillot de bain de l'histoire, je vous raconte, la nageuse Annette Kellerman. Puis elle, c'est Hollywood et son cinéma formaté dans les années 50 et 60 dont elle s'est libérée, Ida Lupino, une comédienne devenue productrice et cinéaste qui a cassé les codes pour montrer l'Amérique telle qu'elle vit. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une princesse japonaise qui a préféré s'exiler que de renoncer à l'amour.
Oui, je vous brosserai le portrait de la princesse Mako qui s'est mariée, attention Stéphane, c'est choquant, à un roturier. Et qui plus est, doté d'un catogan. L'empereur a failli s'étouffer. Je vous raconte tout ça vers 17h20, Stéphane.
Et avec nous, comme chaque jour, celle qui nous présentera justement le livre de Sarah Ferguson, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour
oui,
Clémentine.
Bonjour messieurs, bonjour à tous, bonjour madame. J'ai en effet lu le livre de Sarah Ferguson et je me réjouis de vous en dire du bien tout à l'heure, mesdames, qui aimaient les histoires aventureuses. Oui, vraiment, ce livre vous séduira.
Puis Stéphane, il est le seul bilingue de cette émission, c'est David Castello-Lopez.
Oui. Écoutez, ce n'est pas moi de le dire, effectivement, c'est bien que ce soit vous qui le disiez.
Et humble avec ça.
Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec la choucroute, mais c'est un petit peu ma spécialité. Je vais vous parler des origines des boîtes noires dans les avions. Voilà. Ah oui. Depuis quand est-ce que ça existe, ces boîtes noires, c'est qui enregistrent les derniers moments, enfin qui enregistrent tout, mais qui sont très utiles en
un sujet rieur.
Un sujet rieur.
Et léger.
Et voilà, et je vais faire une introduction complètement tragique, donc je vous préviens à l'avance.
On va pleurer. Très bien.
Vous allez pleurer.
Et puis avec nous, Olivier Pouls. Olivier Pouls pour une recette du sud de la France.
Oui, totalement niçoise. Je vous parlerai des origines de la pissaladière. Je vous donnerai la recette, évidemment.
You know, pissaladière. You know, Côte d'Azur.
Yeah.
And pissaladière, you know, you like the tart?
Yeah.
It's a little bit like a pizza with onions and anchois.
Is that what you do? I didn't know what you do.
Yeah, he's a cook.
Parce que c'est ça que vous faites, je ne savais pas ce que vous faisiez.
Well,
je comprends, donc vous êtes chef. C'est l'un de mes plats préférés.
Vous voilà propulsé chef, Olivier. C'est pas ça. Chroniqueur gastronomique, n'allons pas trop loin. Alors, Sarah Ferguson, on vous retrouve tout à l'heure. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle a brisé son carcan au sens propre. Atteinte de la polio, enfant, elle s'est débarrassée de ses bretelles de jambes métalliques grâce à la natation et a même été la première à quitter le costume de bain pour le maillot. Stéphane Bern mouille le sien et nous raconte la nageuse star de l'histoire, Annette Kellerman.
Une belle et jeune nageuse venue d'Australie, Miss Kellerman, se propose de battre cette année le record de Webb lui-même en traversant la Manche à la nage. Elle est, nous assure ses compatriotes, de taille à exécuter vaillamment son projet. En ce moment, Miss Annette Kellerman est à l'entraînement. Les derniers télégrammes nous apprennent qu'elle évolue dans ses divers essais avec rapidité et adresse. Voilà ce qu'on peut lire dans le courrier de Tlemcen ce 25 août 1905. La Miss en question est la première sirène, c'est le surnom pas si original que ça qui lui donnait, à poser le pied à terre. Pourtant, incroyable mais vrai, il y a quelques années, le corps de la nageuse était enfermé dans un carcan d'acier. Annette Kellerman voit le jour en juillet 1886 dans la banlieue de Sydney d'un papa violoniste australien et d'une maman pianiste française. La seule musique qu'elle entend à l'âge de 6 ans, c'est le couinement des bretelles métalliques qu'elle porte quotidiennement pour redresser son corps. La polio, cette maladie très contagieuse qui envahit le système nerveux, paralyse ses jambes. Sur les conseils de son médecin, la jeune Annette fait ses premières brasses dans la piscine locale. Quelle joie immense ne ressent-elle pas quand elle plonge dans le grand bain? Tel un poisson dans l'eau, elle sent son corps et ses jambes plus libres que jamais. Après avoir appris, elle nage dès que possible, n'importe où et n'importe quand. Lourdement appareillée pendant des années, Annette est enfin guérie de la maladie à 15 ans et remporte au même moment sa première compétition, le championnat régional du 100 mètres nage libre. Le courant l'amène à Londres en 1905, où elle remonte vaillamment la Tamise. À 19 ans, elle compte bien devenir la première femme à traverser la Manche à la nage. Le premier homme à avoir réalisé cet exploit, c'est un capitaine britannique du nom de Matthew Webb. En août 1875, il a traversé l'English Channel en 21h45 exactement. Mais voilà qu'après plus de 10 heures passées dans une eau à 11 degrés, Annette Kellerman baisse les bras. Bon, il faut dire que le défi était de taille. Il faudra attendre 21 ans pour voir l'américaine Gertrude Ederle devenir la première femme à traverser la Manche le 6 août 1926 en 14h39. Cet échec n'entache pas la célébrité grandissante de la sportive et ne la décourage surtout pas. Quelques semaines plus tard, la voit la seule femme dans une course d'hommes dans la Seine. Elle termine troisième face à 17 concurrents qui en ont dans le maillot de bain. Si elle sait nager des kilomètres, elle sait aussi plonger avec talent. Cela mène à près de 30 mètres de hauteur. Révélation de la natation internationale, Annette fait sensation dans son maillot de bain moulant qui immortalise les journalistes du Daily Mirror qui suivent chacun de ses mouvements. Arrêtons-nous un moment sur sa tenue de bain d'ailleurs, qui ne semble pas très réglementaire. Dis donc, cette matière épouse ses formes sans même laisser de place à l'imagination? Rien à voir avec les costumes de bain du 19e siècle? À cette période, aller à la mer était réservé à une élite et les quelques chanceuses qui pouvaient aller faire un saut lorsque le beau temps le permettait ne risquaient pas de prendre un coup de soleil. Tant mieux, car le bronzage n'était pas encore très à la mode. Il n'empêche, elles étaient couvertes de la tête aux pieds dans des grandes tuniques en coton ou en laine de couleur sombre, avec un pantalon bouffant qui descend sous les genoux, en prime, pour les plus respectables, des collants transparents et des chaussures de bain. Il s'agissait d'un véritable costume trois pièces et, par la même occasion, d'un obstacle majeur pour les sportives aquatiques dont les mouvements étaient complètement brimés. C'est pourquoi Annette décide de coudre elle-même son propre maillot, un juste au corps noir qui va des pieds au cou. Le fait qu'il soit très moulant garantit une bonne pénétration dans l'eau. Mais comme il épouse ses cuisses et ses hanches, vous imaginez le scandale. Et en plus, on voit ses bras. Oh. Quand elle les traîne sur une plage du Massachusetts en 1907, un gendarme se rue vers elle illico. L'effronté, qui a osé défier les pudibonderies de l'Amérique puritaine, doit s'expliquer devant un juge. Plaidant une nécessité technique liée à sa discipline sportive, elle obtient gain de cause. L'histoire fait les gros titres et les femmes découvrent dans la presse cette nouvelle tenue de bain qui leur sied si bien. Son maillot, Annette Kellerman le porte à chaque fois qu'elle se donne en spectacle. La sirène australienne met en scène ses performances dans des ballets aquatiques. À New York, par exemple, on peut la voir virevolter dans un bassin en verre. Elle est ainsi une pionnière de la natation synchronisée. Son show s'exporte à travers le monde entier, tandis qu'elle devient la femme la mieux payée des États-Unis avec un salaire qui atteint les 5 000 $ hebdomadaires. Autre surnom de la sirène, Vénus. Elle le doit à un professeur de Harvard qui se penche sur ses mensurations alors qu'elle se produit au Wonderland Park sur la plage Rivery à Boston. Celle-ci, 1m62, 92,5 cm de tour de poitrine, 65 cm de tour de taille et 94 cm de tour de hanche sont proches de celles de la Vénus de Milo. Mmh. Mais heureusement, Annette a des bras, elle. C'est quand même plus pratique pour nager. Vénus, oui, mais seulement en dessous des épaules, aurait répondu la principale intéressée avant d'intituler son spectacle suivant « La femme parfaite ». Impossible de se douter en la voyant ainsi nager qu'elle eut un jour les jambes paralysées. À New York, Chicago, Boston, Annette Kellerman fait sensation dans le premier maillot, une pièce de l'histoire qu'elle a cousue elle-même. Le Kellerman est porté par les jeunes femmes de plus en plus nombreuses à fréquenter les plages et à rêver de liberté. Annette a donné l'exemple, un exemple suivi par des générations entières qui s'amuseront à rendre son maillot de bain de plus en plus minimaliste. On pense notamment à l'invention du bikini en 1946. Du spectacle vivant au cinéma, il n'y a qu'un pas ou plutôt qu'une brasse. Dans les années 1910, Annette Kellerman tourne dans plusieurs films comme « La fille de Neptune » et « Vénus des mers du Sud ». Les rôles sont taillés sur mesure. Elle joue des danseuses dans des ballets aquatiques. Elle effectue elle-même ses propres cascades et, même pas peur, aurait plongé dans une piscine remplie de crocodiles. « La fille des dieux », film muet d'Herbert Brennan, laisse les spectateurs sans voix. Assise sur une branche d'arbre, Annette est nue. Même pas en maillot de bain, non, carrément dans le plus simple appareil. Et c'est l'une des premières fois qu'on voit ça dans une production hollywoodienne. Bon, pas tout à fait nue quand même, car sa longue chevelure dissimule sa poitrine et son sexe. Cette fois, celle qui a les mêmes mensurations que la Vénus de Milo nous fait penser à une autre Vénus, celle de Botticelli. Pour les curieux qui voudraient voir ce film, qui est aussi le premier de l'histoire à coûter près d'un million de dollars, c'est malheureusement impossible, car il n'en existe plus aucune copie. Dans les années 50, Annette Kellerman est elle-même le sujet d'un film. La première sirène de Mervyn LeRoy retrace l'incroyable parcours de la star des premières brasses en Australie jusqu'aux spectacles aquatiques à New York, avec bien sûr sa tentative de traverser la Manche. Son rôle est joué par celle qui suit ses traces, la nageuse et actrice Esther Williams. Jusqu'à la fin de sa vie, Annette Kellerman vante les bienfaits du sport pour les femmes et pratique la nage tous les jours. Elle meurt le 6 novembre 1975 à 89 ans. Les cendres de la sirène australienne sont dispersées au-dessus de la grande barrière de corail pour lui permettre ainsi de toujours rester là où elle se sentait le mieux, c'est-à-dire dans l'eau.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Annette Kellerman, nous avons le plaisir d'accueillir un historien du sport qui s'y connaît. Bonjour Thierry Terré.
Bonjour.
Bonjour Thierry Terré, vous étudiez notamment le genre dans l'histoire du sport et vous avez publié un livre qui porte bien son nom, Sport et genre, paru aux éditions L'Harmattan. Le genre d'Annette Kellerman est féminin, une femme qui affronte surtout des hommes dans l'eau. C'est pour ça qu'on la remarque d'abord, avant de remarquer ses performances.
Oui, on la remarque parce que c'est la seule femme au milieu d'hommes. Lorsqu'elle traverse Paris à la nage, dans la Seine, ils sont une quinzaine, une vingtaine d'hommes à chaque fois. Mais c'est la seule femme au début. Puis deux, puis trois, d'une année sur l'autre, le nombre de femmes augmente parce qu'elle fait modèle, elle donne l'exemple. Et immédiatement après sa première tentative de traverser de la Seine à la nage, les premiers clubs de natation pour les femmes sont créés en France, d'abord à Paris, puis à Lyon.
Et puis, les bassins sont rares aussi à cette époque. Les premières piscines commencent à être construites à partir de quand ?
Alors, il y a à Paris quelques bassins, mais les premières piscines datent du début du XXe siècle. En fait, il y a trois bassins à Paris seulement, à la fin du XIXe siècle. La grande époque de la construction des piscines, c'est plutôt l'entre-deux-guerres.
Vous parlez, Thierry, d'une mode des traversées des villes à la nage qui apparaît au tout début du XXe siècle. Cette mode, elle séduit Annette Kellerman, mais d'autres femmes aussi, j'imagine.
Oui, alors cette mode, on la trouve dans toute l'Europe. Elle passe par la traversée des villes à la nage, par la traversée des ports, des docks, dès lors qu'il y a des grands espaces aquatiques à traverser, parce que vous le disiez, il y a peu de piscines, sauf peut-être en Grande-Bretagne. Donc il faut bien nager quelque part. Et puis, c'est intéressant parce qu'on n'a pas de tribune, mais les gens se pressent au bord de la rivière, ils se mettent sur les ponts. Oui, on compte jusqu'à 20 000 spectateurs lors de la traversée de Paris à la nage. C'est considérable. C'est un spectacle gratuit, même si la plupart des nageurs et des nageuses sont déjà des professionnels.
Alors Annette Kellerman, elle échoue dans son record de traversée, mais c'est là qu'elle gagne toute sa notoriété en fait. S'y présenter, c'était déjà un exploit.
Alors traverser Paris à la nage, c'était pour la première fois un exploit. Mais quand elle arrive en Europe, elle est déjà connue. Elle est déjà connue parce qu'elle est détentrice de plusieurs records du monde. Et elle est aussi remarquable parce qu'elle est extrêmement jeune. Lorsqu'elle arrive, elle a 17 ans, 18 ans, puis 19 ans sur la traversée. Donc les gens sont éblouis à la fois par ses qualités physiques, par sa jeunesse, par aussi un parfum d'exotisme parce qu'elle arrive d'Australie. Mais en Australie, elle est déjà extrêmement connue, sa notoriété l'a précédée.
Annette Kellerman s'est libérée de son carcan métallique, hein, ce carcan au sens propre. Ce carcan, c'était lié à sa maladie, la polio. On peut dire que c'est la natation qui a participé à sa guérison. Est-ce que la pratique de la natation était commune pour combattre ou même pour soigner la polio à l'époque?
Dans la seconde partie du 19e siècle, le bain, dans toutes ses dimensions, est un remède.
C'est un remède à tout.
Un remède absolument formidable qui traite aussi bien les maladies mentales que les maladies physiques. On trouve des quantités industrielles de traités médicaux qui utilisent le bain vraiment dans toutes ses formes. De ce point de vue, le fait qu'Annette Kellerman ait été soignée, entre guillemets, par la pratique de la natation pour une maladie, la polio, n'est pas aussi rare que cela. On trouve des chapitres entiers sur le sujet à la fin du 19e siècle.
Alors, je le disais, elle s'est libérée d'abord d'un carcan d'acier. Ce qui était nécessaire, c'est son mental qui était, lui, vraiment en acier pour se libérer de ce carcan-là.
Oui, surtout à l'adolescence. Mais très vite, elle réussit à s'affranchir de ce handicap et à surperformer, à battre absolument tous les nageurs et les nageuses, en Australie d'abord, à tel point que dès l'âge de 16 ans, on la trouve à réaliser des shows aquatiques. À 17 ans, elle est à Sydney, puis à Melbourne, dans des sortes de grands aquariums, à nager et à plonger au milieu des poissons. Les gens se pressent pour la voir et c'est ce qui lui donne un statut de star, véritablement.
L'autre carcan dont elle se libère, et je l'ai raconté, c'est le costume de bain qu'elle remplace par un maillot, une pièce, qu'elle est la première à concevoir et à porter. Ce maillot, une pièce, il ressemble au maillot de natation d'aujourd'hui ou pas vraiment?
À la belle époque, les hommes nagent avec un maillot, une pièce, qui descend jusqu'aux chevilles et qui couvre la totalité du corps et les bras. Les femmes, de leur côté, ont du mal à utiliser le même vêtement, les mêmes codes vestimentaires. Elles ont des tenues qui cachent évidemment la totalité du corps, mais qui sont bien moins fonctionnelles, bien moins pratiques. Ce qu'offre Annette Kellerman, c'est en fait d'utiliser un maillot qui est quelque part entre la tenue des nageurs, des hommes, et la tenue des gymnastes femmes. Quelque chose de beaucoup plus moulant. Alors bien sûr, ça fait scandale.
Oui.
Ça fait scandale à tel point qu'elle se retrouve face aux policiers. On est sur une côte américaine. Elle s'en sort en disant qu'elle ne peut pas nager longtemps et vite avec un tel accoutrement. Et le consensus qu'elle trouve face au juge, c'est de mettre un collant sous son maillot. Collant qui disparaîtra, mais il faudra encore une dizaine d'années avant que cette tenue soit popularisée.
C'est pas un geste politique ou féministe, c'est juste elle cherche l'hydrodynamisme. Non, enfin je ne sais pas. Ou il y a un peu des deux peut-être.
Il y a un peu des deux parce que c'est quelqu'un qui veut affranchir la femme des codes et des carcans. Vous utilisez le mot. On ne lui connaît pas d'engagement politique au sens féministe du terme. En revanche, lorsqu'elle, par son exemple, amène des femmes à se réunir en association pour créer des clubs de natation spécifiquement féminins, il n'y a pas d'ambiguïté. Dans les entêtes de Londine, qui est l'un des premiers clubs de natation féminin en France, il est indiqué émancipation féminine.
Ah, c'était intimement lié, natation féminine. Et
toutes les lettres envoyées par la deuxième association créée en France sur cet objet-là, la relation étroite avec le féminisme est évidente.
Imposer ce maillot de bain, ça a été une longue lutte. Au départ, on le jugeait indécent. Comment elle a vécu, Annette Kellerman, le fait d'être jugée indécente, le fait d'être comme ça, la proie de critiques?
Elle provoque. Elle provoque, mais elle en tire un bénéfice médiatique et évidemment financier derrière. Elle est dans une logique qui n'est pas celle du sport au sens olympique du terme. On ne la trouvera d'ailleurs jamais aux Jeux Olympiques. C'est une professionnelle. Elle fait du spectacle. Elle utilise ses qualités physiques exceptionnelles. Encore une fois, elle est record woman du monde sur certaines distances à cette époque. Elle utilise son extraordinaire potentiel physique pour faire le show. Et donc, tout ce qui peut attirer l'attention est intéressant, commercialement, financièrement.
Et donc finalement, le policier qui l'arrête sur la plage, c'est plutôt un super coup de pub marketing pour développer sa marque, entre guillemets.
Absolument, mais tout n'était pas gagné parce qu'elle aurait pu finir avec une belle amende.
Mais non, ce qui est intéressant dans le destin d'Annette Kellerman, c'est qu'elle passe de sportive professionnelle à vedette à Hollywood. Le cinéma de l'époque commençait à s'intéresser aux sportifs, d'ailleurs. Et à leur physique, on se souvient d'un autre nageur, Johnny Weissmuller, qui a joué dans les années 30 Tarzan sur grand écran. C'est un peu ça, non?
Alors, c'est un peu ça. C'est la première véritable sportive qui perce dans le cinéma muet. Et elle le fait en utilisant son talent. C'est-à-dire que les 5 films qu'elle tourne entre 1914 et le début des années 20, ces 5 films la mettent en scène en tant que sirène. En tant que nageuse, et elle utilise encore une fois ses compétences techniques, mais aussi sa plastique, son esthétique, et à tel point que dans son second film, elle apparaît nue. Alors, ses longs cheveux cachent évidemment sa poitrine, mais c'est la première à s'afficher nue dans un film dans l'histoire du cinéma.
On aimerait bien voir ce film.
Il est malheureusement...
C'est celui qui a disparu ?
Oui, c'est le film qui est historique.
Oh, Stéphane, patrimoine, là.
Mais c'est comme le nom d'Annette Kellerman qui a un peu disparu. On l'a ressuscité cet après-midi sur Europe 1, mais il a un peu disparu. Heureusement que vous êtes là aussi.
On en retrouve la trace dans quelques musées et Hall of Fames, comme on dit.
Très bien. Merci beaucoup, Thierry Terret, de nous avoir replongé dans l'histoire d'Annette Kellerman et celle de la natation féminine. Pour en savoir plus, je signale vos livres « Naissance et diffusion de la natation sportive »,« Sport et genre », parus tous deux aux éditions L'Harmattan.
Merci beaucoup.
Merci.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
vôtre. Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, on se la raconte un peu puisque nous avons le plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle qui, depuis son union avec le prince Andrew, dont elle a partagé la vie pendant plus de 10 ans, est membre de la famille royale britannique, c'est la duchesse d'York, Sarah Ferguson, à qui on souhaite la bienvenue dans Historiquement Vôtre.
Nous avons le plaisir de vous accueillir à l'occasion de l'apparition d'un roman, votre dernier roman, roman historique, roman d'amour aussi, bref, les deux passions réunies de notre chroniqueuse Clémentine Portier-Kaltenbach ici présente. Alors forcément, Clémentine, vous avez aimé ce livre.
Oui, je vois que vous restez discret sur ma passion pour Napoléon et devant la duchesse d'York, je pense que c'est en effet préférable. Alors, oui, Sarah Ferguson, vous venez de publier ce roman historique qui est inspiré librement de l'histoire d'une de vos arrière grand-tantes, mais le personnage est nourri de quantité d'autres personnages. C'était votre arrière grand-tante, Lady Margaret Montagu Douglas Scott, déjà, rien que le nom en impose. Et ce livre est paru en Angleterre sous le nom « Son cœur pour boussole » et le titre français « À la conquête de sa liberté ». Alors l'action se passe en 1865, en pleine Angleterre victorienne. L'héroïne, Lady Margaret, a 19 ans. Et le roman commence alors que ses parents doivent annoncer le soir même ses fiançailles avec un homme qu'elle déteste et qui la dégoûte littéralement. Dans ce livre, et c'est vraiment le point de départ, le thème central, c'est vraiment le thème qu'on retrouve chez les fans et les lectrices de Jane Austen. Donc, mesdames qui aimez les livres de Jane Austen, vous allez vous régaler avec celui-ci. Le thème principal est la dépendance des femmes vis-à-vis du mariage. Le mariage est alors un marché. Et pire encore, dans l'Angleterre victorienne, la femme est un bien comme n'importe quel élément du patrimoine. Lorsqu'elle se marie, tous ses biens, et y compris ses enfants, appartiennent à son mari. Juridiquement, elle est une mineure, une incapable. Et c'est d'ailleurs un grand paradoxe chez nos voisins et amis anglais. C'est qu'à la fois, ils ont eu des reines absolument, des figures majeures de l'histoire de la monarchie britannique, et en même temps, la femme est totalement minorée. Donc il y a ce paradoxe, on est dirigé par une reine qu'on respecte, mais la femme est un bien comme un autre. Et il y a même eu en Angleterre des ventes d'épouses jusqu'à la fin du 19e. Alors dans le cas de Lady Margaret, bon, ses parents possèdent des milliers de moutons, Donc tout naturellement, on lui a trouvé un fiancé dont les parents ont sont dans l'industrie textile. Bah oui, comme ça, voilà. Donc c'est vraiment le mariage patrimonial. Et elle sait qu'elle doit remplir son devoir, qu'elle ne doit pas décevoir ses parents, mais elle considère son futur mariage comme une soumission. Dans le monde où elle est née, elle doit constamment brider son naturel, sa vraie nature. Elle doit se couvrir, elle est pleine de taches de rousseur, donc elle doit se couvrir le visage de poudre de perles pour cacher cette cache de rousseur. Alors qu'elle est rousse, évidemment, on pense évidemment immanquablement à Sarah Ferguson. Elle est rousse, on lui teint les cils et les sourcils en noir parce que c'est la mode. On lui fait des coiffures alambiquées, pleines d'épingles à cheveux qui la blessent. Et elle dit « Je voudrais pouvoir lâcher mes cheveux, avoir le sentiment qu'une partie de moi-même au moins est libre. » Attifée comme une poupée pour le bal des débutantes, elle trouve qu'elle ressemble à un paquet cadeau. Voilà, donc, que va-t-elle faire ? Ses fiançailles vont être annoncées. Eh bien, elle suit son instinct. Elle décide de partir, de ne pas faire ce qu'on attend d'elle, de se rendre maîtresse de son propre destin. Et ses aventures la conduiront des bas quartiers de Londres jusqu'aux États-Unis. Elle aura d'ailleurs un peu le même destin que Jane Austen, parce qu'elle aussi va devenir écrivaine. Mais là où la comparaison s'arrête, c'est que Jane ne s'est jamais mariée, Jane Austen, alors que Margaret, elle, connaîtra l'amour, même si je ne veux pas tout dévoiler. Donc c'est la comparaison ça s'arrête là.
Merci beaucoup Clémentine. Alors Sarah Ferguson, là, on ne peut pas éviter la comparaison parce qu'elle est flamboyante, elle est rousse comme vous. Il y a beaucoup de vous dans cette héroïne de Lady Margaret, plus que la chevelure.
Well, I have wanted to write this novel for 15 years.
Ça fait 15 ans que je voulais écrire ce roman.
I have always wanted to know where I get my
character from. Parce que j'ai toujours voulu savoir d'où me vient mon caractère. J'ai un caractère très fort. Moi aussi, j'ai dû cacher mes taches de rousseur. Moi aussi, je suis rousse. Je ne sais absolument pas pourquoi je prends certaines décisions, pourquoi je fais certains choix. Ça vient vraiment du fond de mon cœur. Et en cherchant, je suis tombée sur Lady Margaret. Dans ma famille, et à l'époque, dans les années au 19e siècle, tout le monde écrivait en fait sur ses frères. Elle était complètement laissée de côté. On ne sait rien d'elle. Donc j'ai pris cet ancêtre et je me suis dit, tiens, si je lui fabriquais une vie. Et en essayant de comprendre cet ancêtre que j'ai et mon histoire, essayer de comprendre ma propre vie, j'ai compris en fait que la véritable noblesse, c'est quelque chose qui vient de l'ADN et qui vient du cœur plutôt que du titre, qui vient de cette bonté d'âme. Et ce qu'il y a de plus important, c'est que j'ai compris d'où vient l'humilité, d'où vient la force de caractère, je crois. Et en écrivant ce livre, j'ai pu prendre confiance sur ce que je suis et j'ai pu comprendre que ma relation à la vie et la considération que j'ai pour la vie et tout ce que je dis dans le livre, tout ce que j'écris, c'est vraiment mon propre rapport à la vie. Quand je racontais que je suis sortie hier de la gare du Nord, j'ai vraiment ressenti cette sensation de liberté. J'ai l'impression que je pourrais faire le tour de l'Europe. Je regardais par la fenêtre, je regardais la tour Eiffel et j'avais cette sensation, cette impression de magie. Et dans le livre, c'est ce qui se passe pour Lady Margaret quand elle s'enfuit, littéralement, quand elle fuit comme une cendrillon juste avant minuit. Elle s'échappe. Et bien sûr, elle va tomber sur un homme qui n'a pas de jambes et qui vend des allumettes dans la rue. Et bien sûr, j'ai tout inventé. Mais cet homme qui est très important dans le livre, je voulais lui rendre hommage, je voulais rendre hommage à son courage. Et ça me rend dingue de parler de tout ça, y compris de cette misère, en étant là dans le studio avec vous.
On comprend, Sarah Ferguson, qu'il y a beaucoup de vous dans ce livre. Vous nous disiez que c'est un livre que vous aviez en vous depuis 15 ans déjà. Pourquoi seulement maintenant ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous retenaient d'écrire ce livre encore pendant quelques années ?
Oui, it wasn't the right time,
ce n'était pas le bon moment.
It was the pandemic.
Parce qu'il y avait la pandémie.
That gave me the time.
C'est la pandémie qui m'a offert le temps. qui m'a permis de l'écrire. Au lieu de rester là à me dire « Oh mon Dieu, le Covid, la pandémie », je me suis échappée, évadée grâce à ce livre. Je crois que le secret de tout bon roman de Jane Austen ou tout autre grand auteur ou autrice littéraire, que ce soit Balzac ou Jane Austen, c'est ce sentiment de s'évader dans un autre monde. Et c'est pour ça que ce livre n'est pas simplement un livre, il parle vraiment de moi, même si je ne le dis jamais. J'ai vraiment ressenti chaque instant de la vie du personnage.
Vous le dites très justement, votre principale source d'inspiration pour écrire c'est ce personnage principal, c'est votre arrière-arrière-arrière-grande-tante, Lady Margaret Montagu de Glascott. Qui était-elle au fond? Vous auriez presque pu écrire une biographie historique de sa vie qui est terriblement romanesque. On sait très peu de choses sur elle. Qui était-elle?
I could not agree more. But by the
je suis évidemment complètement d'accord. Mais quand je me suis engagée dans l'écriture d'un roman, je n'ai pas pu faire une autobiographie de Lady Margaret. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que tous mes ancêtres rousses, Lady Margaret, et puis en remontant plus loin, il y a encore une Margaret. Elles s'appellent toutes Margaret, elles sont toutes rousses. Et l'une d'entre elles était la femme du gouverneur d'Australie. C'est elle qui a inauguré le terrain de cricket de Sydney il y a un siècle, presque hier. Et cette Lady Margaret du livre, elle a suivi son cœur. Est-ce qu'on peut dire ce qui se passe dans l'histoire, Clémentine? Je ne sais pas. Je ne veux pas que les gens renoncent à acheter le livre.
Donc, acheter le livre pour savoir
ce qui se passe. Mais, bien sûr, elle a effectivement ouvert ce premier hôpital à Édimbourg, la véritable Lady Margaret. Donc, on sait qu'elle a vraiment défendu le droit à l'éducation, à l'alphabétisation pour les femmes. Elle s'est battue, elle s'est mariée effectivement très tard, à 28 ans. Je ne dirais pas qui elle s'est mariée, mais en tout cas, c'était très tard pour l'époque. Et pour ne pas m'attarder trop longtemps, je tiens énormément à cette idée que vous avez dite, Clémentine, c'était tout à fait vrai. Comment ça se fait qu'à l'époque, il y avait une femme sur le trône, la reine Victoria, la reine Elisabeth aujourd'hui, et pourtant les femmes, et encore aujourd'hui d'ailleurs, n'avaient pas le droit de faire entendre leur propre voix. Il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Et je crois que c'est vraiment pour ça que j'avais envie d'insister sur cette question. Comment ça se fait que dans les années 1870, il fallait faire exactement ce qu'on vous disait de faire? Et les rousses, en général, ne font pas ce qu'on leur dit de faire.
Alors, dans ce livre, effectivement, il y a aussi une voix féministe. On peut dire que c'est un roman féministe. C'est très important pour vous de mettre en avant des héroïnes femmes.
I am a deep romantic.
Je suis profondément romantique. Et j'adore les hommes. Je suis pas en train de dire que je veux beaucoup d'hommes, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais j'aime que les hommes ouvrent la porte, j'aime l'aspect chevaleresque, la bienveillance aussi des hommes et les roses rouges. Mais malgré tout cela, on peut quand même avoir une voix et être écouté en tant que femme. Oui, je suis quelqu'un qui insiste énormément sur la nécessité d'être écouté. Et je défends le fait que j'ai une opinion. Et même si j'aime le côté chevaleresque et le côté romantique, ça ne me rend pas faible pour autant. Ne vous méprenez pas, ne prenez pas ma gentillesse pour une forme de faiblesse.
Nous sommes toujours, je le rappelle, avec Sarah Ferguson, la duchesse d'York, à l'occasion de la parution. Effectivement, c'est le tea time avec elle, à l'occasion de la parution de son roman « À la conquête de sa liberté », publié aux éditions Harlequin.
Est-ce que vous aimez cette période victorienne dans laquelle vous nous plongez?
Autant que Stéphane.
Non mais... Moi, je trouve incroyable cette période victorienne parce que d'abord, il y a l'amour. C'est vrai que c'est une société encore très étriquée, mais il y a les progrès techniques, l'industrialisation de la Grande-Bretagne qui règne sur le monde. L'Angleterre, à l'époque, est la première puissance au monde, pratiquement.
Oui, mais c'est aussi Dickens, hein, Stéphane.
C'est aussi, bien
n'oubliez
sûr,
pas Dickens, Stéphane.
Oui, non, je n'oublie pas Dickens, David Copperfield et...
Anne Faubert.
Bien sûr.
And of course, you know, Balzac and all these people.
Et bien sûr, Flaubert, Balzac. J'aime que vous preniez cet exemple, la mère du prince Albert. Louise, elle est venue ici pour essayer de trouver un remède à son cancer du col de l'utérus. Et à l'époque, les médecins étaient à la pointe, les médecins parisiens. Et je suis aussi très fière d'avoir mis beaucoup de choses sur la France et j'en mettrai encore davantage dans mon prochain roman. Mais pour revenir au sujet, j'ai écrit deux livres historiques quand j'ai épousé le prince Andrew parce que je me suis dit que j'étais ignorante et que si j'épousais un prince, il fallait absolument que j'étudie l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai écrit deux livres d'histoire, un sur la vie de Victoria et d'Albert. Et sur la vie familiale aussi de Victoria et d'Albert à Osborne House. Et puis, il m'a fallu encore 15 ans pour retrouver la jeune Victoria. Et nous avons réalisé avec Martin Scorsese un film sur la jeune Victoria. C'était mon idée. Et tout ça m'a donné envie d'écrire encore davantage sur l'ère victorienne. Parce que si vous étudiez cette histoire, l'histoire d'Albert et de Victoria, c'est Albert, en fait, qui a dit à Victoria, il faut que tu apprennes les règles du jeu, comment jouer les règles du jeu. Et il faut que tu apprennes à jouer mieux que tout le monde. Et c'est lui qui lui a appris. C'était aussi le début de l'unité de la monarchie. Il s'est débarrassé de tout ce qui ne fonctionnait pas. Il a dit, voilà, on est une famille moderne, on est 9 enfants et nous allons unir l'Europe avec toutes les autres monarchies. Et bien sûr, il y a l'histoire de ce mariage en Allemagne. Et il y a tous ses enfants, en fait, ont épousé des nobles en Suisse, dans des familles royales. Il avait cette vision. Et bien sûr, il y a aussi la révolution industrielle. Et puis la grande exposition, ça a été son dernier grand moment avant sa mort.
Il y a juste une chose étonnante. Vous dites que vous avez dû étudier l'histoire. Mais au fond, depuis votre enfance, vous baignez dans l'histoire. Vous-même, vous descendez du roi Charles II, vous parlez des Douglas Scott, des Duke of Buccleuch, des Duke of Richmond. Vous avez dans le sang toutes les grandes familles d'Angleterre. Vous avez baigné dans l'histoire toute petite.
Yes.
On ne voit pas votre geste.
Yes.
Oui.
Yes.
Tout à fait.
One thing, Clémentine. One thing you said.
Clémentine a dit, et c'était très gentil de sa part, que Lady Margaret a beaucoup de caractère.
I have great sense of humour.
Et j'ai un grand sens de l'humour. Et Lady Margaret aussi a un sens de l'humour. Elle n'aime pas l'homme qu'elle va épouser parce qu'il a une manière très bizarre. Il a des tics, en fait, de bouger. Et il l'agace. Et je me vois très bien aussi m'irriter de ce genre de personne qui me regarderait tout le temps en me disant « Tu ne fais pas comme il faut ».
This book is
pour revenir à Mathieu, sa question, ce livre est très amusant, elle est très passionnée, elle est pleine d'humour. Et donc oui, j'ai beaucoup de chance. Stéphane, c'est moi qui ai énormément de chance d'être face à vous aujourd'hui. Je vis tous les rêves possibles et en même temps, je suis là avec vous aujourd'hui. Et c'est vraiment formidable.
Imaginez-moi qui vois Stéphane Bern tous les jours de ma vie. C'est vraiment un cadeau du ciel. Chaque jour, je remercie le Seigneur. Sarah Ferguson, vous êtes avec nous pour ce livre qui paraît aux éditions Harlequin, une maison d'édition connue pour ses publications de romans à l'eau de rose, comme on dit en France. Les romans d'amour, est-ce que vous aimez les lire? Ça fait partie de la littérature que vous aimez?
Love it.
J'adore.
I love anything that takes me on escapism.
Tout ce qui me permet de m'évader. Tout ce qui repose sur l'imaginaire, qui développe mon imagination quand je lis le roman. On a parlé de Jane Austen tout à l'heure avec Clémentine. Je la trouve fascinante. Et je trouve fascinant qu'elle nous embarque dans un tel voyage. Elle fait partie de mes icônes. Et oui, j'adore les romans sentimentaux. J'aime que la lectrice doive utiliser sa propre imagination et dans ce livre en particulier, c'est la lectrice qui fait le travail, le lecteur, la lectrice. Dans tous mes livres, c'est ce que je fais. Ma fille Béatrice m'a dit, mais enfin, il a fallu que je fasse tellement de recherches, il a fallu que je m'engage tellement auprès d'un personnage, que je mette tellement de passion et puis on tourne la page et puis ce qu'on pensait ne s'est pas produit. Et je me suis dit, tiens, c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est, voilà, c'est Jane Austen revisité.
Est-ce qu'il y a aussi des romans français qui vous ont inspiré ou en tout cas que vous aimez lire?
You know, one of my, I was at school with Florence Belmondo.
J'ai étudié avec Florence Belmondo. Nous avons fait nos études ensemble. Elle était dans ma classe. C'était ma meilleure amie.
So I used to come to France a lot.
Et donc je venais beaucoup en France.
And I used to sit with Alain Delon and
et je passais du temps avec Alain Delon, Jean-Paul Belmondo.
And so I used
beaucoup
to hear
de chance.
All these stories.
Et j'écoutais
and
toutes
I
ces histoires.
Just sort of was, obsessed with,
et j'étais complètement obsédée par Flaubert, par Madame Bovary, par Balzac.
Deals with Provence and,
la manière dont
and Paris,
Balzac
and
parle de la vie provinciale, du rapport
and
avec Paris, ces allers-retours-là. C'est comme quand les gens me demandent si je suis croyante et quelle est ma religion. Je dis que je prends des choses du bouddhisme, de l'hindouisme, du catholicisme. Je prends plein de petites choses merveilleuses dans chaque religion. Je ne suis pas à un endroit précis. Et quand je parle de littérature ici à Paris, en France, là aussi c'est un mélange. Je prends des choses un peu partout, comme Dickens le faisait quand il empruntait à Balzac.
Mais voyez-vous, madame, il y a Françoise Giroux qui était une très grande journaliste française à qui on avait demandé quelle était sa phrase préférée de la littérature française, citait justement Madame Bovary de Flaubert. Et à propos d'Emma Bovary, Flaubert écrit « Elle voulait à la fois mourir et habiter Paris ». Et c'est une des contradictions de Margaret, justement. C'est qu'elle est à la fois partie prenante de cet univers et elle veut s'en échapper. Il y a quelque chose d'Emma Bovary, mais d'une Emma Bovary qui aurait réussi parce qu'elle trouve le bonheur.
Mais il ne faut pas dire la fin.
Non, on ne sait pas si elle trouve le bonheur. Il faut lire.
But Clémentine, it's interesting that
mais Clémentine, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu cette chance d'être effectivement immergée dans l'histoire.
Taking a bit of my knowledge from the ingredients of the cake made from Madame Bovary.
Peut-être que je me suis servi du savoir que j'avais, des ingrédients d'un gâteau qui serait à la croisée de Madame Bovary et d'autres choses. Je pense que c'est vraiment dans mon sentiment. C'est comme la recette d'Olivier. Il faut beaucoup d'ingrédients.
Et le meilleur ingrédient, vous n'avez pas changé, je sais que vous n'avez pas changé, c'est le sens de l'humour qui sauve de toutes les situations dans la vie. En tout cas, merci beaucoup, Sarah Ferguson, d'avoir
merci,
choisi
madame.
Historiquement Vôtre pour parler de votre nouveau roman À la conquête de sa liberté qui vient de paraître aux éditions Harlequin. C'était un honneur, un plaisir de vous accueillir cet après-midi. Revenez aussi souvent que vous voulez, mais attendez
à
pas 15
roman.
Ans.
Bah oui.
On sera peut-être plus là dans 15 ans.
OK. But can I just say thank you very
que
much.
Que je peux juste vous remercier. Je sais qu'à la radio, il faut aller vite et je vois que Mathieu parle très rapidement.
Try to be discreet.
Qu'il regarde là, mais
when you really love something,
quand on aime vraiment quelque chose,
I want to just like leave Hebdo for me.
J'ai envie de laisser un peu de place aux choses.
I want to sign your books for you
et j'ai envie de prendre le temps de signer votre livre aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'était un plaisir, vraiment.
No, thank you very, very much.
Merci
honestly,
à vous. Merci beaucoup à vous tous.
Merci beaucoup, Sarah Ferguson. Et on remercie également profondément la traductrice Marguerite Capet.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement Vôtre.
Vous écoutez un numéro exceptionnel d'Historiquement Vôtre où, pour le plus grand bonheur de Stéphane Bern, nous avons reçu une vraie duchesse.
Ah non, elle est où ?
Non, elle est partie, Stéphane. C'était Sarah Ferguson, la duchesse Dior. On l'embrasse. Là, nous entrons dans la deuxième heure de notre spécial. Elles ont brisé leur carcan, consacré Stéphane à des femmes qui
ont brisé leur carcan.
Oh, vous êtes vraiment un grand professionnel.
Après la nageuse en maillot de bain, Annette Kellerman, je vous raconte l'histoire de la comédienne et cinéaste Ida Lupino, qui a fait voler en éclats le cinéma formaté d'Hollywood dans les années 50 pour raconter sur grand écran la vraie vie des États-Unis, loin de ses codes habituels. Enfin, plus proche de nous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une princesse qui s'est affranchie aussi et a brisé les conventions, la princesse Mako du Japon.
Oui, je préviens, Pulse et Castello, toute vanne impliquant le mot moulage sera rigoureusement proscrite. De cette chronique, l'ambassade du Japon nous écoute, il en va de l'image de la France. Qui est Mako ? Pourquoi a-t-elle dû s'exiler pour épouser l'homme de son cœur ? Réponse aux alentours de 17h20, Stéphane.
Sans oublier nos célèbres chroniqueurs qui sont là. David Castel-Lopez, oui. Vous nous racontez les origines de la boîte noire des des avions.
Des avions, c'est, voilà. Exactement. Ça avait une très grande tristesse, ouais, je vous préviens, du début
on va
à la
vers
fin.
Le crash.
Vous avez vu le film La Boîte Noire?
Non, je ne l'ai pas vu.
Il est vachement bien.
C'est vrai?
Ouais, il est super bien, je crois qu'il a eu pas mal de succès d'aller au cinéma. C'est un très bon film que je vous invite à voir. La pisse à la dière, c'est un tout autre sujet, beaucoup plus rigolo,
oui, plus ensoleillé. Très jouissant, et je vous préviens, ma chronique sera ensoleillée et joyeuse pour vous remettre de la dépression que ne manquera pas de vous communiquer David Castello-Lopez.
Enfin, d'habitude dans cette émission, c'est nous qui posons les questions à Stéphane.
Caroline de Monaco, c'est celle qui est un petit peu costaud.
Non, c'est la belle.
Mais quand vient l'heure de la lutte finale, les rôles s'inversent et c'est Stéphane qui nous pose les questions. La lutte finale, notre quiz fratricide, ce sera vers 6h-20. Mais pour l'heure, découvrons notre deuxième personnage du jour.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Comédienne en vue, elle a su se libérer du carcan d'Hollywood et de son cinéma formaté. Pour créer sa propre société de production, elle a pris la liberté d'aborder dans ses films tous les sujets qui lui tenaient à cœur. Stéphane Bern nous raconte l'actrice, cinéaste et productrice qui a explosé les codes, Ida Lupino.
Bonjour messieurs et Miss Lupino. Ainsi s'ouvrent à partir de 1950 les réunions du syndicat des réalisateurs américains. À 32 ans, Ida Lupino intègre la prestigieuse Directors Guild of America. Elle est la seule femme au milieu de 1300 hommes. Autant dire que la salle empeste la testostérone. Rien d'étonnant quand on sait que le milieu du cinéma est réservé à une élite, celle des hommes. Dans sa biographie « Beyond the Camera », Ida Lupino dit elle-même qu'il règne à Hollywood un système absolu et totalement cadenassé dont le but premier était d'exclure les femmes. Ce système cadenassé, elle en a trouvé la clé et a su se faire respecter par ses confrères du sexe opposé. Actrice, passée derrière la caméra, devenue la seule femme à diriger des films à Hollywood dans les années 40 et 50, Ida Lupino est aussi la réalisatrice la plus prolifique de l'histoire. Mère du cinéma indépendant, elle monte sa propre société de production pour aborder des sujets noirs dans des films engagés et explose ainsi les tabous et carcans d'un cinéma américain très formaté. Jouer la comédie chez les Lupino, c'est de famille. On monte sur les planches depuis 13 générations. Née à Londres en février 1918, Ida appartient à une grande famille d'acteurs anglais, parmi lesquels son grand-père George et son père Stanley. Forcément, toute son enfance, elle n'entend parler que de cet art naissant mis au point par les frères Lumière, le cinéma. Elle entre à la Royal Academy of Dramatic Art à 13 ans. Grâce à l'un de ses oncles, ancien assistant d'Ernst Lubitsch, la jeune Ida fait ses premiers pas devant la caméra dans The Love Race. Un chercheur de talent de la Paramount, l'une des plus grandes boîtes de production cinématographiques américaines, la remarque et lui fait traverser l'Atlantique pour rejoindre l'usine à rêve. Ida Lupino débarque à Hollywood à seulement 14 ans. Là-bas, la Paramount ne lui confie que des rôles hypersexualisés, des filles de mauvaise vie, souvent des prostituées. Mais c'est sans compter sur la très forte personnalité de la jeune femme qui se démène pour arriver à ses fins. En 1935, grâce à sa force de caractère, Ida Lupino parvient à décrocher un rôle dans le film Peter Ibbotson avec le beau Gary Cooper. Son rôle d'une londonienne du peuple avec ses cheveux blonds et son regard profond la révèle aux yeux du public. Pour ne plus être reléguée à des rôles de second plan dans des films de série B, Ida Lupino fait peau neuve. Elle enlève ses tartines de maquillage et laisse pousser ses sourcils. C'est alors qu'elle devient la dure à cuire de la Warner. Dans les années 40, elle crève l'écran dans Une femme dangereuse et La grande évasion de Raoul Walsh. Elle joue avec les plus grands comme Jean Negulesco et Fritz Lang. Mais Ida Lupino s'ennuie entre les prises. Elle se dit vite que le travail le plus intéressant ne se trouve pas devant, mais derrière la caméra. Alors, elle observe attentivement ceux qui la dirigent, avant de créer avec son mari sa propre société de production en 1949. C'est The Filmmakers, dont le but est de montrer l'Amérique telle qu'elle vit. Par hasard, Ida se retrouve à la tête de son premier film. Le cinéaste embauché pour réaliser « Avant de t'aimer » dont elle a co-écrit le scénario fait une crise cardiaque au bout de 3 jours de tournage. Il faut vite le remplacer au pied levé. C'est elle qui s'en charge et prend les commandes de ce film noir à contre-courant de l'ambiance qui règne dans le pays après la Seconde Guerre mondiale. Il faut bien comprendre qu'on est à ce moment-là dans une Amérique prospère qui vient de gagner la guerre. Quelques mots-clés résonnent en boucle. Loisirs, consumérisme, capitalisme, mariage, famille. Mais ce bonheur de surface masque une angoisse. Une angoisse qu'Ida Lupino vient explorer dans ses films. Pour cela, il lui faut contourner le code Hays qui régit la censure du cinéma et interdit de prononcer les mots avortement ou mère célibataire. Dans son premier film, elle parvient à parler des fimères et lève le voile sur cette réalité qui concerne de nombreuses jeunes femmes dans l'Amérique des années 50. Son but est de montrer qu'une femme est assez forte pour s'en sortir toute seule. C'est ce qu'elle fait encore dans « Faire face », qui raconte le destin d'une jeune danseuse contrainte de renoncer à son métier après avoir été paralysée par la polio. Elle connaît le sujet puisque elle aussi, elle l'a attrapé durant son adolescence. Dans « Outrage », elle parle de viol et contourne la censure en l'évoquant dans une scène où l'on voit une jeune femme paniquée tentant de fuir vainement son agresseur. C'est la première fois qu'est montré au cinéma le point de vue d'une femme sur le viol, un sujet qui n'aurait pas dû être filmé pour Variety à cette époque. Justement, pour Ida, ce sont ces sujets que personne ne filme, ces réalités invisibilisées par la société qui méritent bien d'être traitées. Si Ida Lupino parvient à mener à bien ses projets, c'est en se présentant aux hommes avec qui elle travaille comme une figure maternelle. Les hommes détestent les femmes autoritaires. Vous n'ordonnez pas à un homme, vous lui suggérez, explique-t-elle. Alors, sur un plateau, elle ne s'énerve jamais et leur dit « Est-ce que tu pourrais le faire pour maman ?» Sur sa chaise de plateau, à la place de son nom, on peut lire en lettres capitales « Notre mère à tous ». En 1953, Ida Lupino réalise « Bigamy », qui montre les ravages causés par l'infidélité d'un mari incapable de choisir entre ses deux vies. Cette même année, son associé et mari, Collier Young, propose de couper les ponts avec leur société de distribution, la RKO. Il est persuadé que The Filmmakers peut distribuer ses propres films. Mais, mauvaise idée, la société fait faillite l'année suivante. Ida Lupino passe alors du grand au petit écran. Elle réalise des épisodes des séries cultes comme Ma sorcière bien-aimée, Alfred Hitchcock présente, Les Incorruptibles ou La quatrième dimension. En 1966, à 48 ans, elle réalise un dernier film au cinéma, Le dortoir des anges. La distribution est entièrement féminine. Pourtant, la réalisatrice ne s'est jamais vue comme une féministe, mais simplement comme une artiste qui voulait faire des films. Elle meurt des suites d'un infarctus en 1995, à l'âge de 77 ans, dans la Cité des Anges, celle-là même où elle a montré qu'elle pouvait voler de ses propres ailes.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Ida Lupino, nous sommes avec deux réalisatrices qui lui consacrent justement un film, deux sœurs même. Bonjour, Clara et Julia Kupperberg.
Bonjour.
Bonjour Clara et Julia Kupperberg, qui signent le documentaire « Gentleman and Miss Lupino » que l'on peut voir actuellement sur OCS. Comme Ida Lupino l'a fait avec Hollywood, vous vouliez aussi parler d'un sujet dont les autres ne parlent pas, d'un grand nom finalement d'Hollywood qui est tombé dans l'oubli. On peut le dire quand même, sans lui faire offense, que son nom est tombé dans l'oubli.
Tout à fait. Oui.
Et c'est un peu ça votre démarche.
Oui, elle est connue comme actrice.
Oui.
Vraiment, elle a fait beaucoup de films noirs, elle a joué dans beaucoup de films. C'était une grande actrice, elle était très connue. Mais en tant que réalisatrice, personne ne la connaissait, encore aujourd'hui. Et on a découvert Ida Lupino en faisant notre film sur « Et la femme crée Hollywood » sur les femmes pionnières qui ont créé Hollywood. Et on a regardé ses films et on s'est dit « Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un ovni. » Cette femme réalise des films sur le viol, sur l'avortement, avec des castings que féminins. Et on s'est dit « Mais c'est pas possible, au milieu d'un Hollywood entièrement masculin. » Comment est-ce qu'elle a fait pour survivre et pour réaliser tous ses films ?
Comment se fait-il que tout ce pan-là de sa carrière de réalisatrice soit si méconnu ? On a voulu garder l'image de la comédienne, ça va. En revanche, ses films, il y a eu un travail d'oubli. On n'oublie pas si facilement quelqu'un qui a fait des films, surtout des films si pionniers, visiblement. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Si, on l'oublie parce qu'en fait, elle était la seule. C'est pire que tout. C'est qu'elle était la seule femme réalisatrice pendant une décennie.
On n'a pas vraiment de réponse à ça. Est-ce que c'est parce que c'est une femme ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'elle faisait des films dans le système indépendant ? Certainement, aussi.
Est-ce qu'elle touchait des sujets qu'on ne touchait pas à l'époque ? Merci. Elle touchait à des sujets qu'on ne touchait pas aussi, qui n'étaient pas populaires dans le cinéma des studios, dit des studios. Elle était vraiment une indépendante. Elle a créé le cinéma indépendant, en quelque sorte, à cette époque-là. Parce qu'elle touche des sujets qu'on ne fait pas. Elle parle de femmes. Elle parle de problèmes de femmes.
Mais elle avait du succès avec ses films.
Oui. Ça qui est dingue, c'est que ses films avaient du succès. Ses films étaient populaires. Et surtout, ses films faisaient de l'argent, faisaient des entrées.
Ah oui, donc,
mais parce qu'elle parlait de la vie de toutes les femmes. L'avortement, le fait d'abandonner son enfant quand on a 17 ans. C'était des problèmes vraiment pour le coup, et elle allait à l'encontre de la société, là où la société encourageait les femmes à se marier et à faire des enfants, elle leur disait « Faites, mais sachez que ça peut se passer comme ça. » En gros. Donc du coup, c'était vraiment cathartique, et c'était pour ces femmes, ces spectatrices, c'était génial, parce qu'elles avaient enfin un vrai modèle qui leur ressemblait, et qui ressemblait à leur quotidien.
Alors, des interviews, vous en avez faites beaucoup pour ce film. Vous avez notamment la rencontre d'une historienne du cinéma américain, Ali Acker, qui raconte ceci. On l'écoute.
Avant 1920, il y avait plus de femmes qui travaillaient à Hollywood qu'à aucun autre moment de l'histoire du cinéma. Il y avait des réalisatrices, des scénaristes, des actrices, des monteuses. Mais quand les studios émergent, autour de 1928, et que le cinéma devient un vrai business, tout à coup, les femmes sont évincées, car elles ne sont pas acceptées dans les syndicats. Quand le cinéma devient lucratif, les femmes ne sont plus les bienvenues à Hollywood. Et ça reste vrai depuis les années 30 jusqu'aux années 70.
Alors, comment se fait-il que les femmes se soient faites aussi facilement évincées de l'industrie cinématographique américaine alors qu'elles étaient au cœur de tout, finalement ?
Elles étaient partout, elles étaient patronnes de studio, elles étaient réalisatrices, productrices, elles gagnaient de l'argent. Et en fait, il s'est passé un truc très malin, il s'est passé la dépression, en fait, à la fin des années 20. Et toute la, ce qu'on appelle la Ivy League, donc tous les hommes cultivés, éduqués, qui avaient fait des études, qui étaient à l'Est, ont vu Hollywood tout d'un coup comme une, l'Eldorado, un endroit où on pouvait faire de l'argent. Et tout ce cinéma-là qui était indépendant, c'était plein de petits studios quand même, tout d'un coup a fusionné en 5 grands studios. Et tous les hommes sont arrivés et ont pris le contrôle de ces studios. Et ils ont poussé vers la sortie les femmes. Et ils l'ont fait d'une façon aussi intelligente, c'est par le biais des syndicats. C'est pour ça que c'est intéressant. Après, Ida Lupino, qu'on retrouve au syndicat des réalisateurs, c'est qu'en fait, les hommes, quand ils ont créé une Amérique syndicalisée à Hollywood, ils en ont exclu les femmes. Donc, elles se sont finalement retrouvées, exclues des syndicats, et donc ne pouvant pas finalement être...
Faire entendre leur voix.
Elles se sont retrouvées à les former aussi.
En plus, elles ont formé, puis ensuite,
elles leur ont expliqué comment écrire un scénario, comment réaliser...
Les grandes scénaristes devenaient script doctors, en fait.
C'est ça, ensuite.
Vous revenez également sur le fait qu'Ida Lupino était souvent suspendue par les studios de la Paramount dès qu'elle refusait un rôle, en fait. À cette époque, on s'en rend compte, les actrices et les acteurs, surtout les actrices, étaient considérées comme des marionnettes. En fait, elles n'avaient jamais leur mot à dire.
Non, jamais. Elles étaient la propriété du studio, en fait. Mais les acteurs, pareil. Vous signiez à l'époque un contrat, ce qu'on appelait les contrats de 7 ans. Vous apparteniez au studio et vous deviez accepter tout ce qu'on vous proposait. Donc, en fait, Ida Lupino, on lui proposait des rôles souvent très sexualisés qu'elle refusait. Donc, elle disait non, je ne veux pas faire ce rôle-là. Donc, on lui disait, t'es puni, tu vas au placard, t'es suspendu, t'es pas payé pendant ce temps-là, mais t'appartiens au studio, t'as pas le droit de partir ailleurs. Et ça a été comme ça tout le long de sa carrière d'actrice, parce qu'elle était rebelle et qu'elle refusait les rôles qu'on lui proposait. Mais comme des Bette Davis, des Olivia de Havilland.
Oui, tout le monde était à la même enseigne.
Tout le monde était à la même enseigne, les hommes et les femmes pour le coup.
Les hommes étaient plus payés quand ils étaient en suspension. Quand ils étaient suspendus,
quand même, ils avaient un meilleur traitement, dans la suspension.
De toute façon, ils gagnaient mieux. Ils étaient plus payés, donc de toute façon.
Alors, Ida Lupino voulait montrer, on l'a dit, l'Amérique telle qu'elle vit, filmer les histoires fortes, sans star à la caméra. Elle parlait de viols, de maladies graves, d'adolescentes enceintes, de mères célibataires, d'adultères, le tout sans porter de jugement. Est-ce que ces films n'avaient pas finalement un aspect documentaire ?
Si, complètement.
C'était des documentaires ?
Complètement. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui des films. Scorsese dit quand même.
Mais là, c'est Julia.
Alors, c'est de plus en plus introduit à Hollywood, je vois, Julia.
Scorsese nous a confié effectivement, que non, elle l'avait vraiment inspiré. Elle avait inspiré d'une certaine façon ce qu'on appelle la nouvelle vague aujourd'hui, dans le style documentaire, dans le style réel. Parce qu'elle tournait dans des décors réels. Elle tournait pas en studio, puisqu'elle n'était pas réalisatrice de studio. Et qu'elle avait des petits budgets, donc il fallait faire un peu système D.
Et qui d'autre, par exemple, elle a ouvert la voie pour qui d'autre ? Pour quel réalisateur ou réalisatrice contemporain qui se revendique un peu de son cinéma ?
Dans tous les films qui sont de la nouvelle vague, qui sont aujourd'hui...
Le nouvel Hollywood.
Ce sont des sujets du quotidien, un peu glauques, durs. On n'est pas dans le glamour du
Et puis on n'est pas dans le stéréotype, surtout. C'est ça qui est intéressant chez Ida Lupino et qu'on retrouve après dans le nouvel Hollywood, dans ce cinéma-là. C'est que les personnages ne sont jamais stéréotypés. Que même, on prend un film comme The Bigamist, c'est un homme qui a deux femmes. Mais finalement, elle n'en fait pas un héros méchant, elle n'en fait pas un sale type, vicieux.
Un type extraordinaire, oui.
C'est un type ordinaire qui a voulu bien faire finalement en épousant les deux, mais elle ne le juge pas et elle ne le rend pas antipathique. Et elle fait pareil avec les femmes. Et donc en fait, c'est assez rare à cette époque-là dans le cinéma hollywoodien qui est très manichéen.
Dans le documentaire, vous racontez par exemple qu'elle a le soutien du producteur Howard Hughes, notamment pour son film Outrage. premier film à parler du viol du point de vue de la victime, alors que Howard Hughes s'est révélé être un véritable prédateur sexuel. Ça, c'est complètement contradictoire.
Bah, c'est le cynisme de l'époque, oui, c'est ça.
En même temps, il y en avait beaucoup, hein, donc... Il y en avait beaucoup, mais il était tout
Mais est-ce qu'il avait le conscience de l'être lui-même? Peut-être pas.
Bah, c'est toujours pareil. Non, oui, certainement. Non, ouais, ça, c'est un autre sujet.
Est-ce qu'un sale type sait qu'il est un sale type, Saint-Dieu?
C'est une question philosophique, mais pourquoi vous me regardez comme ça? Mais c'est ignoble. Mais vous êtes ignoble, Stéphane.
Merci,
devant
Clara.
Devant les invités, devant Julia et Clara.
Et dans deux formidables invités. Clara, merci, Clara et Julia Kuperberg. Je rappelle que votre passionnant documentaire sur Ida Lupino, Gentleman and Miss Lupino, est à voir sur la plateforme de streaming OCS. Merci à toutes
les
deux.
Merci à vous.
Merci.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, on évoque ces femmes qui ont brisé leur carcan. Après Annette Kellerman et Ida Lupino, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai de Mako, cette princesse japonaise qui a dû renoncer à tous ses titres pour épouser l'homme qu'elle aime.
Oui, Stéphane, je dédie cette chronique à tous ces couples qui avaient prévu de se marier en 2020 et qui, Covid oblige, ont dû décaler une fois, deux fois, parfois trois fois, occasionnant de terribles disputes, parfois même de quasi-séparation. À tous ces couples, je dis, estimez-vous heureux, ça pourrait être pire, vous pourriez être Mako et Kei. Voici, les amis, l'histoire du mariage le plus laborieux, le plus malchanceux de ces dernières années. À la question, seriez-vous prêt à tout quitter par amour? Vous répondez quoi, Stéphane?
Bah oui, bien sûr, je suis bien prêt à tout quitter par amour.
Voilà, mais moi aussi, tous, on répond oui, sans trop réfléchir, en se disant qu'au fond, ça n'engage à rien, parce que dans le monde normal, personne ne nous demandera jamais de tout quitter par amour. Dans un monde normal, non. Mais dans le monde de la haute noblesse japonaise, oui. Au sommet de la hiérarchie nobiliaire japonaise se trouve sa splendeur éternelle, soleil divin dont la lumière irradie le peuple, l'empereur Naruhito, être quasi divin que ses sujets n'ont pas le droit de regarder dans les yeux, monarque inaccessible sauf bien sûr pour Stéphane Bern qui le surnomme affectueusement son vieux bambou et joue souvent au ping-pong avec lui le dimanche après-midi. Le 25 octobre dernier,
ah, ça c'est pas du tout chinois, c'est chinois.
On est dans la cité au cœur de Tokyo là. Le 25 octobre dernier, Stéphane promenait justement son chien Pikachu dans les jardins du palais, quand Naruhito, son Altesse Sérénissime, gloire éternelle démon Daishu, a déboulé, furieux. Il venait d'apprendre que sa petite-fille Mako avait passé outre les remontrances familiales et qu'elle allait se marier le lendemain avec Keiko Muro, un roturier qui plus est affublé d'un katogan. Stéphane tenta alors de calmer le jeu en lui disant « Keiko wa majda sun dongeyo !» soit, dans le texte, « Pétez un coup votre Altesse, ça ira mieux après. » Mais Naruto était inconsolable et il rappela la règle ancestrale. « Si tu te maries avec un gueux, tu deviens un gueux. C'est comme ça. » Tchiki tchiki. Stéphane, résigné, a dit...
Dommage, hein.
Pikachu a dit... Les dés étaient jetés. Pour épouser l'homme qu'elle aime, Mako, la princesse qui était un peu trop sortie du moule, devait signer un contrat de rupture avec son histoire, son pays, sa famille, son titre. Le 26 octobre, après 4 ans de scandales médiatiques, de contestations, de commentaires et de rebondissements, l'amour a triomphé. Mako a dit oui à Kei, perdant par la même occasion l'ensemble de ses titres royaux. Princesse Mako n'est plus, elle est aujourd'hui Madame Mako Komuro. Comment David? Dommage, Princesse Mako, c'était un super nom de camgirl spécialisée dans le bondage. Bon, je vous demanderai de rester quand même respectueux avec la petite fille de son Altesse bénie des dieux par-delà les cimes du Mont Fuji. Elle a beau avoir renoncé à ses titres, elle reste, alors tenez-vous bien, la fille aînée du prince Fumihito, héritier présomptif de la couronne japonaise et de la princesse Kikodashikino, la petite fille de...
Takishino,
oui. La petite fille de l'empereur Akihito et de l'impératrice Michiko et la nièce de l'actuel empereur du Japon, Naruhito. À ce titre, elle est membre de la famille impériale du Japon, sans toutefois faire partie, sous le régime de la loi de la maison impériale de 1947, de l'ordre de succession au trône de Chrysanthème. Pour la première fois, je crois que même Stéphane...
Ah si, j'ai très bien compris.
Vous connaissez
je
aussi...
Je peux vous le réexpliquer plus
vous connaissez
simplement.
Tout.
Ah ben ça, mais bien sûr.
Mais vous êtes incroyable.
Elle est la nièce de l'empereur, comme elle a fait un mariage avec un roturier, elle est sortie de succession. On ne peut pas tuer son grand-père qui vit toujours, son père Akishino et sa maman.
Vous les connaissez tous
intimement. Oui, bien sûr, Kiko et Akishino. Kiko. On se fait
des bouffes.
On se fait des sushi parties. Super. Ouais.
Mais qu'est-ce qu'il faut pour nos émissions?
J'ai rencontré l'empereur une fois dans ma vie.
Vous l'avez regardé dans les yeux?
Bah oui, c'était interdit. Vous nous avez pas dit que c'était interdit.
Oh, le scandale.
Ouais. Bon. Il est plus Dieu vivant depuis 1945.
Ah bon, d'accord, moi dans mes notes, il était toujours Dieu vivant. Moi j'aime bien imaginer Dieu vivant.
Vous aimez bien le chose avant 45.
Bon, peu importe, puisque désormais, il n'y a plus que Mako et Kei, les Roméo et Juliette du pays du soleil levant. C'est beau et chelou à la fois, comme une chanson de Juliette Armanet en japonais.
C'est beau, non, Juliette Armanet, j'aime bien.
Avant, un peu moins bien qu'en français.
Ouais, comme Claude François en espagnol. Avant l'exil forcé, Mako fut une princesse exemplaire. Stéphane, elle a fait de brillantes études d'art, notamment à Dublin et Leicester, où elle vivra une vie d'étudiante en Erasmus normal. D'ailleurs, n'est-ce pas lors d'un beer pong à une soirée pute et prêtre qu'elle rencontrera Keiko Muro ? Ah non, pardon, je me suis trompé de ligne, ça c'est mon discours de mariage pour Pulse en juin prochain. Non, Mako et Kei, eux, se rencontrent sur les bancs de l'International Christian University de Tokyo, où elle étudie l'art et le patrimoine culturel, autant pour moi, même si le contexte est moins excitant qu'un beer pong, les deux tombent fous amoureux. Leurs études pourtant les séparent encore, elle poursuit son cursus en Angleterre, lui aux États-Unis, mais en 2013, Kei demande Mako en mariage. 2013-2021, on peut parler de persévérance. Car si Mako accepte immédiatement, ce n'est le cas ni de sa famille, ni de son pays. 1. Le type est roturier. 2. L'hebdomadaire Shukan Josei révèle en 2017 que sa mère, la future belle doge donc, refuse de rembourser 4 millions de yens, soit 30 000 euros à son ex. Argent qui aurait servi à payer les études de son fils, le futur marié. Alors oui, nous on s'en fout. Je sais, mais nous on est français. L'échelle du scandale chez nous n'est pas la même. Tant que les mots peignoir, Sofitel, Dodo la Semure et Arnaud Aboul ne sont pas prononcés, peu de choses nous choquent. Au Japon, il en va autrement. Keiko Muro est présenté comme un séducteur utilisant la princesse pour régler ses problèmes d'argent. Le mariage est reporté. L'extrême droite va jusqu'à organiser des manifestations accusant le futur marié de détournement de l'impôt à son profit, les princesses japonaises devant recevoir plus d'un million d'euros pour leur mariage. Qu'à cela ne tienne, Mako annonce renoncer à cette somme. Non, pas quelle conne, Stéphane, quelle femme, quelle éthique. Bon, alors là, quand même, on se dit que ça va s'arranger, que les tourtereaux vont pouvoir savourer le mariage, ils l'ont bien mérité. Eh ben non. Déjà que quand Kei rentre des États-Unis, c'est la Covid. Il doit donc se taper 14 jours de quarantaine avant de pouvoir retrouver Samy. De son côté, le VJF de Mako n'est pas le plus festif, je cite « La princesse est allée offrir des prières sur les tombes de ses arrière-grands-parents, puis s'est rendue, comme le veut la tradition, dans les trois sanctuaires du palais impérial de Tokyo pour signaler aux ancêtres de la famille impériale et aux divinités qu'elle va épouser une semaine plus tard Keiko Muro, un roturier. » Ouh ! Pas un Chip and Dale, pas une tequila paf, rien. Cerise sur le saké, le même jour, son grand-père est hospitalisé. Le 26 octobre, le mariage est enfin célébré. Bon, on fit ça, hein, dans l'intimité la plus complète. Durant la conférence de presse qui suit, Mako trouve encore le moyen de s'auto-flageller, de s'excuser pour la gêne occasionnée à sa famille. Ces dernières années ont été un mélange de peur, de tristesse et de douleur, annonce-t-elle. Quelle chouille ce mariage! Quelques jours plus tard, le 4 novembre, papy casse sa pipe. Mazel Tov, les amoureux, désormais. Ils sont installés aux États-Unis, Mako et Kei, ils vont enfin pouvoir vivre leur amour pleinement, en tout cas on leur souhaite. Mako, titulaire d'une maîtrise en études muséales, se verrait bien un jour bosser au Metropolitan Museum of Art. Vive les mariés, tous nos vœux de bonheur. Chiki chiki bien sûr. Stéphane, qu'est-ce que vous avez choisi sur les listes de mariage ?
Des boules chinoises, des godemichés à seringue et à piston, des martinets à clous.
Vous avez raison, ça sert toujours, surtout au début d'un mariage.
Ah non, non,
vous n'avez aucun respect pour la famille impériale.
Vous avez mis ce...
Quel drôle d'idée cadeau quand même.
Merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces femmes qui ont brisé leur carcan.
Pour retrouver des hommes qui veulent bien eux aussi briser leur carcan, tant qu'il y a de la pissaladière à la cantine. N'est-ce pas Olivier, la pissaladière, quelle belle invention niçoise.
C'est délicieux, puis je donne une petite recette aussi, tiens.
David Castello-Lopez est avec nous également et il nous entraîne tout de suite aux origines de quelque chose d'hyper funky. Et jovial, la boîte noire des avions.
C'est vrai qu'historiquement, je commence plutôt mes chroniques avec des blagues. Mais là, je vous préviens, je vais dire des choses très tristes.
Ah bon ?
Pendant toute ma chronique, en fait. Moi, en fait, quand j'étais enfant, je me souviens très bien que j'avais pas peur de l'avion du tout. J'étais un de ces enfants qui trouvent les décollages et les atterrissages super. Je considérais ça un peu comme une sorte de manège, de fête foraine, hyper sympa. Et puis, il y a eu le vol TWA-800. Est-ce que vous vous souvenez du vol TWA-800
je connais quelqu'un qui,
Qui était dedans. C'était un Boeing 747 qui a décollé de l'aéroport JFK à New York le 17 juillet 1996 en direction de Paris-Charles de Gaulle. À son bord, il y avait 230 personnes avec parmi elles plein de gens, un guitariste très connu et respecté qui s'appelait Marcel Dadi et surtout toute une classe de lycéens qui apprenaient le français en Pennsylvanie et qui avaient économisé toute l'année pour aller à Paris avec leur prof. Et 12 minutes après le décollage, il y a eu un court-circuit près d'un réservoir de carburant qui se trouvait sous l'avion. Ça a fait exploser ce réservoir. Toute la partie avant de l'avion, avec le pilote, le copilote et plein de passagers, s'est détachée du corps de l'appareil à 5000 mètres d'altitude. Et l'avion décapité, lui, avec le reste des passagers, il a continué sa course un petit peu. Et puis, il s'est écrasé dans l'océan en le couvrant au passage d'une sorte de mer de flammes. Et mon père, il m'a dit à l'époque, et c'est ça dont je me souviens le plus, il m'a dit que plusieurs personnes dans l'avion, elles étaient tombées de la carlingue dans les airs et elle n'était morte qu'en touchant l'eau. Alors, il s'avère que c'était probablement faux. Les gens sont morts assez vite.
De crise cardiaque.
Et surtout, quand l'avion s'est détaché, la partie avant s'est détachée, il y a eu un brusque freinage, en fait, dans les airs qui les a probablement tués à ce moment-là. Mais ça m'a complètement glacé le sang. Et à partir de là, j'ai commencé non seulement à avoir super peur de l'avion, mais en plus à être fasciné par les accidents d'avion. Une fascination un petit peu morbide. Et donc, régulièrement, je lis la transcription des derniers enregistrements de la boîte noire des avions. Les enregistrements, on peut les écouter aussi, et ça m'arrive de les écouter. Et c'est vraiment dans ces enregistrements qu'on se rend compte de l'horreur de la chose. De ces pilotes, par exemple, qui sont tout calmes, souvent jusqu'au dernier moment, mais qui parfois crient juste avant l'impact. Mais alors, d'où ça vient, ces boîtes noires? Qui a eu l'idée de mettre ça dans les avions? Le plus ancien prototype de boîte noire, il date de 1939, et c'est un ingénieur français polytechnicien qui s'appelait François Husneau qui l'a inventé. C'était, à l'époque, une bobine de film photographique qui se déroulait progressivement et sur laquelle les informations de vol étaient projetées par un jeu de miroir. Ensuite, il fallait développer le film, et c'est peut-être pour ça que ça s'appelle la boîte noire, parce que le film photographique était enfermé dans une boîte hermétique à la lumière, donc une boîte noire. Le plus ancien enregistrement sauvegardé date du 2 mars 1940, et visiblement, François Husneau, il avait tellement peur que son prototype passe aux mains des Allemands pendant la guerre qu'il l'a enterré dans les dunes en Aquitaine. Alors après la guerre, la boîte noire, elle s'est développée un peu partout. Soit le modèle de François, soit des modèles qui gravaient les données sur une feuille de métal. Mais il faut noter que toutes les informations enregistrées à ce moment-là, c'était juste l'altitude, la vitesse, l'angle d'attaque, mais il n'y avait pas encore l'enregistrement des communications. Ça, c'est venu que dans les années 50. Et à cette époque, c'était le début des vols commerciaux d'avions à réaction, c'est-à-dire les avions sans hélice. Vous voyez, les avions qui sont les avions d'aujourd'hui, en fait, les jets. Et à plusieurs reprises, le premier de ces modèles d'avions à réaction commerciaux, qui s'appelait le Havilland Comet, il s'est crashé et personne n'a réussi à comprendre pourquoi. Et là, il y a un chimiste australien qui s'appelait David Warren et qui a développé la première boîte noire moderne qui ressemble en fait trait pour trait à celle d'aujourd'hui et qui est devenue obligatoire dans les avions à partir des années 60. Pour finir, il y a quelque chose auquel on ne pense pas forcément avec les boîtes noires, c'est que les pilotes, ils s'en servent parfois pour dire des mots d'adieu. Ils savent que c'est enregistré. En 1987, il y a un avion de la compagnie polonaise LOT qui s'est écrasé à côté de Varsovie. Et quand le pilote a compris qu'il n'y avait plus rien à faire, il a dit tout simplement dans son système de transmission « Bonsoir, au revoir, nous périssons ». En septembre 1978...
Il a su garder son calme.
Je ne sais pas exactement avec quelle intonation il l'a dit.
S'il l'a dit comme ça, c'est vraiment clair. Voilà.
En septembre 1978, il y a un avion de ligne américain qui a percuté un petit Cessna. Le Cessna, lui, il a réussi à se poser, mais l'avion de ligne s'est crashé. Et juste avant de toucher le sol, le pilote, il a dit « Maman, je t'aime ».
Oh, alors là, voilà. On aura pleuré jusqu'au bout.
Voilà, je vous avais promis de la tristesse, hein. Et ben, je vous en ai donné.
Merci.
C'est très réussi en termes de tristesse.
Oui. On peut rappeler quand même qu'il y a moins d'accidents d'avion.
Oui, qu'un accident de voiture.
Statistiquement, il y a très peu de chances de mourir dans un accident d'avion.
Ah, mais il y a infiniment. J'avais fait un petit sujet là-dessus à une époque. Je crois que si on veut être sûr de mourir dans un accident d'avion, il faudrait passer 33 000 ans dans un avion. Je pense qu'aujourd'hui, les pilotes de ligne sont plus en sécurité dans leur avion dehors de leur avion.
Il faut le rappeler.
Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, et c'est l'heure de s'ouvrir l'appétit avec Olivier Pouls, l'ami de la pissaladière. Olivier,
oui, après avoir le moral plombé par la chronique de notre ami David, j'apportais un peu de soleil.
Là, on fait un Paris-Nice en avion, mais tout se passe bien. Oui. Même si l'aéroport de Nice est dangereux.
Oui, hein, très, 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 vents, très
il y a l'eau, pas loin.
Sur un polder,
très technique, sur un polder, effectivement.
Mais en revanche, quand on a atterri, qu'on a repris ses esprits, qu'on a récupéré sa valise et qu'on est parti, dans la ville de Nice, on va se commander... une bonne pissaladière. Elle, c'est une déclinaison niçoise d'un plat qu'on connaît évidemment bien. Il y a un rapport avec la pizza. Évidemment.
Rappelons que Nice était italienne jusqu'en 1861.
Eh bien, exactement. Et en Italie, un petit peu plus au sud, du côté de Vintimille au XIVe siècle, on trouvait une pizza qui était préparée avec des oignons et des anchois et qu'on appelait la piscadella, et qui serait très probablement à l'origine de la fameuse pissaladière. Mais attention, quand on parle de pissaladière, on parle aussi de pissala. Et le pissala est évidemment très important dans la conception de la pissaladière. Et ça, c'est authentiquement niçois. Alors, qu'est-ce que c'est que le pissala? C'est une sorte de préparation de purée d'alevin de poisson, sardines et anchois, qui sont macérées, fermentées et épicées. C'est un peu comme le garum, en quelque sorte. Et c'est quelque chose qu'on connaît depuis 2000 ans et qui, là, pour le coup, est une vraie spécialité niçoise, je l'ai dit, et qui servait de garniture sur les premières recettes de pissaladière qui remontent au 19e siècle. On parle de pissala à la niçoise, une pâte à pain recouverte de pissala et ensuite cuite au four. Alors, du pissala, on peut encore en trouver, mais ce n'est pas très commun. Et aujourd'hui, on a transformé un petit peu la recette puisqu'on y a intégré de l'oignon et toujours, évidemment, des anchois, mais aussi des olives. Alors, pour réaliser une pissaladière maison est facile, c'est assez simple. On va prendre de la pâte à pain, soit on la fait soi-même, soit on va la demander à son ami le boulanger, puisque ça fait déjà deux fois que je vous envoie chez le boulanger chercher de la pâte à pain crue, il n'y a aucun problème, il commence à vous connaître. Et ah, mais c'est une pâte à pain crue, c'est ça. Donc une pâte à pain crue, il vous faut des oignons, prenez des oignons doux, notamment les oignons doux des Cévennes, c'est une belle appellation d'origine d'oignon.
C'est vrai que quand on est à Nice, prendre des oignons doux des Cévennes, c'est très logique, c'est très local.
Bah, si vous avez, si vous voulez prendre des oignons qui sont plus niçois, vous allez rajouter un tout petit peu de sucre pour avoir quelque chose d'un peu compoté. Petite gousse d'ail, un peu de thym, des anchois évidemment, des olives, de l'huile d'olive et du poivre. Alors première opération, c'est réaliser une compotée d'oignons, c'est pas très difficile. Ça fait un petit peu pleurer quand on les épluche et quand on les coupe finement. Mais après, c'est bon, un peu d'huile d'olive, on laisse compoter ça pendant une vingtaine de minutes avec un petit peu de sucre ou pas, une gousse d'ail écrasée, un petit peu de thym. Quand les oignons ont rendu toute l'eau, qui sont parfaitement fondants, on les dispose sur notre pâte à pain. Après, évidemment, les fameuses anchois qu'on vient poser par-dessus, une quinzaine d'anchois. Et on va terminer par des olives noires. Le tout au four pendant 20-25 minutes, dans un four bien chaud à 220 degrés. Et puis, on déguste ça un peu tiède, même parfois froid ou chaud, c'est comme vous voulez. Voilà une simple et délicieuse pissaladière qu'on boit évidemment avec un vin local.
Qu'on boit, on boit la pissaladière, c'est bon, la pissaladière en milkshake, j'aime moins.
Qu'on dégustera avec un vin blanc un peu
vous
frais.
Savez, ici, on ne laisse rien passer.
Ah, je sais. Oh, c'est terrible.
C'est la police de la pensée.
Et je suis la boîte nard de cette émission. J'enregistre tout.
Ah oui. Merci. Je ne voudrais pas voir ce qu'il y a dans le...
Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, ce ne sont pas les oignons, mais votre inculture qui risque de vous faire pleurer. On va jouer avec l'histoire, c'est la lutte finale.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bon, vous connaissez le principe, une question pour chacun, et puis une dernière pour vous départager. C'est toujours un chiffre qu'il faut trouver, et c'est celui qui se rapproche le plus qui gagne. Alors attendez, là il y a des questions difficiles, je le dis franchement, c'est costaud. Olivier, Osiris, vous voyez qui est Osiris ?
Une déesse ?
Le roi, non, c'est un homme.
C'est un homme.
Roi mythique de l'Égypte antique.
Ça commence bien.
Et Dieu inventeur de l'agriculture et de la religion. Il a aussi couché avec ses trois sœurs. C'est vrai ou c'est faux ?
Peut-être qu'avec une ou avec deux. Ou il n'avait pas de sœurs, il avait des frères. Je dis totalement au hasard, faux.
Vous avez été bien inspiré, Olivier.
Osiris, c'est avec moi.
Oui. Il n'a couché qu'avec deux sœurs.
Perversité de la question.
Et encore. Isis et Nephthys, mais elles étaient jumelles. Donc peut-être qu'il a eu une méprise.
Oh là. Il n'a pas décidé, il voulait coucher avec une seule.
Peut-être qu'il couchait qu'avec une, mais,
mais
c'était normal, vous savez, quand vous étiez et les dieux et les pharaons,
c'était recommandé,
c'était recommandé pour que garder la limpieza di sangre.
Sur le sang pur pour ceux qui ne seraient pas italiens.
Oui,
je pense que ça le salit plutôt que ça le.
Oui, mais à l'époque,
ça ne salit pas, ça l'affadit.
Ça l'affadit.
Ça finit par être. David, fin 2019 à Pompéi. Une nouvelle fresque a été dévoilée au public. Elle représentait le dieu Priape. On le voyait en action avec son sexe. Que faisait-il ? Il pesait son sexe ? Il assommait une vache avec son sexe ? Ou il se servait de son sexe comme épée ?
Pourquoi une chance sur trois encore ? Je suis défavorisé.
Parce que vous êtes trop
lui,
fort.
Il avait quatre possibilités. Il n'avait pas de sœur. C'était oui. Une sœur, deux sœurs, trois sœurs.
C'était oui ou non.
Oui,
et moi,
mais
c'est
bon.
Oui ou non, ou peut-être, machin, il y en a trois. Ouais. Donc, est-ce qu'il s'en servait pour assommer une vache, comme épée, ou comme quoi ?
peser son sexe, assommer une vache avec son sexe ou s'en servir comme épée?
Je dirais que... qui s'en servait comme épée, voilà. Alors, non. C'était pas ça.
C'était pas ça. Il pesait son sexe avec une balance. D'ailleurs, on ne disait pas son sexe, mais son fascinus, certainement, et parce qu'il était...
Et il pesait combien, alors?
Fascinant. Ben, on n'a pas le poids.
Oh, vous n'avez pas
c'est
le chiffre.
C'est une représentation. Il n'y a pas écrit à côté le résultat. Mathieu, dans la mythologie grecque, Io était la fille du roi d'Argos. Zeus la pécho, mais il tenait à rester discret. Du coup, pour la retrouver, il se transformait en quoi? En cygne? Un cygne avec...
Oui, bah, j'ai bien compris, oui, pas la peine de m'imiter
en
le cygne.
En nuage ou en kebab?
En cygne.
Lui aussi, vous avez trois chances, mais il y en a une qui est impossible. Eh bien, super.
C'est, pas, c'est en cygne, non?
On va voir.
Mais
non, signe, c'est Danaï.
En nuage.
En nuage.
Mais quoi, mais c'est quoi cette histoire? Ah, mais je vais me faire tuer par mon fils. Non, je peux pas. On peut pas diffuser ça. Il faut annuler.
L'épouse de Zeus les a quand même surpris.
En nuage? Mais oui. Comment tu pécho quelqu'un en nuage?
Pour tenter de s'en sortir, Zeus signe. A transformé Io en génisse. Mais Hera, elle n'était pas dupe. Elle avait bien vu que c'était Io. Voilà. Et c'est une victoire éclatante d'Olivier Pouls. Voilà, bravo,
bravo
Olivier.
Olivier. Bravo une Olivier. Belle victoire belge, non, une fois de plus.
Je vous invite à la célébrer si vous voulez. Allez.
Alléluia.
Ça va se régler, à mon avis, au point en dehors du studio, parce que David le conteste formellement.
Mais non, je lui ferai une tranche de pissaladière avec un verre de Bel Air.
C'est vrai que ça me compense.
Partir un bras dessus, bras dessous.
Historiquement, votre se termine. Stéphane est tout chaud. C'est la première fois qu'on recevait une vraie duchesse dans ce studio. Vous l'avez trouvé comment, Sarah Ferguson?
Je l'ai trouvé très naturelle, très sympathique.
Ouais. Et vraiment puis, très sympa. Et avec beaucoup d'humour.
Beaucoup d'humour sur elle-même aussi. Ouais.
Ouais.
Et demain... vous avez dit qu'elle avait plus changé que Stéphane Bern.
Mais non, début. Mais j'ai voulu dire que Stéphane n'avait pas changé. J'ai voulu dire que
Stéphane faisait semblant d'avoir. Historique.
Mais non, mais c'est l'inverse. Personne n'a compris l'ironie. Excusez-moi, même pas l'ironie. Même pas elle, c'est le problème. Demain, Stéphane finit de rire.
Oui, finit de rigoler. On réunit des comédiens passés du rire au drame. Le français Max Linder, première star du cinéma muet dans le monde entier, qui s'est tu beaucoup plus tôt. Puis Lenny Bruce, un humoriste américain à l'humour trash que l'Amérique puritaine a voulu faire taire. Et elle a réussi. Hein.
Et on reste aux États-Unis avec Jim Carrey, que la dépression a hélas rattrapé. On verra qui se cache sous le masque.
Splendide! Alors à demain Mathieu, à demain les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.